Prenons nos Bibles dans le psaume 100. C'est le texte que nous allons lire ce matin et partager ensemble. Psaume de louange, donc le psaume 100. Il n'y a que 5 versets. Lance une joyeuse clameur vers l'Éternel, terre entière. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec des acclamations en sa présence. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Nous sommes à lui, son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec la louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bienveillance dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Le Seigneur bénisse sa parole. Voilà donc ce psaume 100, ce psaume qui est vraiment un psaume de louange, un psaume de reconnaissance. Et quand on regarde ce psaume, on peut se poser la question, pourquoi nous allons au culte? Quelle est la motivation pour laquelle nous, chrétiens, aujourd'hui, nous allons au culte? Pour quelles raisons nous désirons aller rendre un culte à Dieu? Pourquoi même? Est-ce que même on s'est posé la question, pourquoi nous allons rendre un culte à Dieu? Et souvent, quand on écoute les prières dans les églises évangéliques aujourd'hui, et c'est des fois même mon tort, des fois on dit merci Seigneur pour ce que tu as fait dans ma vie, pour ce que tu as fait pour moi, pour ce que tu as fait pour mes projets, pour mon travail, pour mes amis, pour ce que tu fais pour moi en fait. Et c'est pas mauvais de prier comme ça. On peut remercier Dieu, on doit être reconnaissant pour ce qu'il fait dans nos vies. Mais quand on regarde ce psaume, on a l'impression que quand même, l'objectif est mis ailleurs que sur nous-mêmes. Nos prières sont parfois trop centrées sur nous-mêmes. Et je confesse que ça m'arrive beaucoup aussi de temps en temps prier comme ça et d'être trop centré sur moi-même. On oublie même des fois que venir au culte, le fait même de venir au culte, de venir dans la présence de Dieu, c'est un privilège que Dieu nous fait. C'est un honneur. C'est même quelque chose qui n'est pas normal. C'est une grâce que Dieu nous fait. Parfois même on vient au culte avec nos fardeaux, on est chargé, on a le poids de la semaine, on a beaucoup de choses qui se sont passées. On se dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux t'offrir ce matin? Alors que je suis vraiment fatigué, alors que je suis vraiment harassé, qu'est-ce que j'ai à te dire? Et la question que le Seigneur veut nous adresser ce matin, à vous et moi, c'est vraiment, avons-nous déjà réfléchi à la reconnaissance? Est-ce qu'on a vraiment déjà réfléchi sur ce thème, sur qu'est-ce que ça veut dire d'être reconnaissant devant Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire une prière de reconnaissance? Qu'est-ce qu'une bonne action de grâce, en fait, selon Dieu? Et quand on regarde ce psaume, on voit que le psalmiste nous enseigne tout simplement que nous n'arrivons pas vraiment à faire une bonne prière de reconnaissance. Ou alors nous faisons une prière de reconnaissance qui est imparfaite, qui n'est pas vraiment selon ce que Dieu attend de nous. Et donc il a composé ce psaume pour nous montrer comment nous devons rendre des actions de grâce à Dieu, comment nous devons prier Dieu, et de quelle manière nous devons le faire, avec quel mot, avec quel thème nous devons célébrer le nom du Seigneur. Et il faut se souvenir que ce psaume, ce n'est pas juste un psaume qui est isolé, mais il vient à la fin d'un autre, un groupe de psaumes qui a commencé au psaume 90. Et ce psaume 90, c'est le cantique de Moïse, la prière de Moïse qui prie le Seigneur, qui rappelle aussi au peuple la fidélité de Dieu et qui rappelle vraiment combien le peuple aussi n'a pas été fidèle, mais que Dieu a continué à être fidèle de génération en génération. C'est pour ça qu'il y a ce verset 5 qui dit Dieu, l'Éternel est fidèle de génération en génération. Donc nous voulons vraiment regarder ce psaume 100 et voir comment nous devons rendre vraiment un vrai culte à Dieu, une vraie action de grâce qui le glorifie, qui montre vraiment qu'il est Seigneur et il est célébré comme il se doit. On veut voir vraiment trois points à travers ce texte. On veut voir que l'action de grâce, c'est avant tout un joyeux service. C'est un joyeux service qu'on rend à Dieu. L'action de grâce, Dieu en est au centre. Dieu est l'objet de notre action de grâce. Et on le voit dans tout ce psaume, et on va le voir, vous allez voir que Dieu est vraiment au centre de notre action de grâce. Et enfin, On doit se souvenir que lorsqu'on remercie Dieu, on le remercie pour qui il est et pour ce qu'il fait. Donc Dieu est vraiment dans tous les aspects de notre action de grâce. Regardons donc comment l'action de grâce peut être un joyeux service que nous rendons à Dieu. Relisons encore ensemble les deux premiers versets. Lance une joyeuse clameur vers l'Éternel, terre entière. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec des acclamations en sa présence. Et je m'arrête là. Et je peux même lire le verset 4. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec la louange. Célébrez-le, bénissez son nom. Pour donner un peu de contexte, ce psaume, c'est un psaume qui accompagnait les sacrifices de communion à l'époque d'Israël. Donc le peuple venait pour offrir des sacrifices de communion, des sacrifices de paix, pour dire que nous sommes en paix avec le Seigneur, nous sommes en paix avec Dieu, nous sommes en paix avec les hommes, et nous offrons ce sacrifice pour montrer notre reconnaissance devant Dieu que nous sommes vraiment dans la paix. Nous avons la paix avec Dieu. Et cette paix-là qui coule dans mon cœur, se dit le juif, je veux manifester cela avec un chant. Donc ça pouvait être le psaume 100 ou d'autres chants, mais je veux vraiment manifester cette paix qui est le partage que j'ai avec Dieu. Et donc celui qui est juif se souvient que Dieu, c'est vraiment celui qui est le libérateur, qui est le sauveur, qui est le Seigneur. Et donc il mérite la reconnaissance, il mérite vraiment la louange. Et donc je vais lui offrir un sacrifice de communion. Je vais lui offrir vraiment un sacrifice de paix. Et donc quelque part, c'est un service que le juif rend à Dieu. Dieu lui dit, il faut que tu me rendes des actions de grâce. Et le juif répond et lui rend ce service à travers ce sacrifice. Et tous ceux qui se reconnaissaient d'Israël, qu'ils soient au peuple d'Israël et même dans les nations des alentours, tous ceux qui se reconnaissaient de l'Éternel, venaient en fait au temple et venaient offrir ces sacrifices de paix et de communion. Et je peux même vous donner un exemple. On peut lire rapidement, hein, je vais lire pour vous, c'est dans 1 Roi chapitre 8. On voit cet exemple en fait de sacrifice de communion, de comment vraiment c'est un joyeux service en fait. Dans 1 Roi 8, je lis, le roi, donc là c'est le roi Salomon, le roi et tout Israël avec lui offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Salomon fit un sacrifice de communion pour lequel il sacrifia à l'Éternel 22 000 têtes de gros bétail, 120 000 de petits bétails. Ainsi le roi et tous les Israélites inaugurèrent la maison de l'Éternel. En ce jour, le roi consacra le milieu du parvis qui est devant la maison de l'Éternel, car il y offrit des holocaustes, les offrandes, les graisses des sacrifices de communion, parce que l'autel de bronze qui est devant l'Éternel était trop petit pour contenir les holocaustes, les offrandes, les graisses des sacrifices de communion. Salomon célébra la fête en ce temps-là, donc c'est un temps de fête, c'est la dédicace du temple, hein, mais c'est un temps de fête. Et tout Israël avec lui. Donc tout le peuple se réjouit pendant ce moment. Et ils offrent des sacrifices. Une grande assemblée venue depuis l'entrée de Hamath jusqu'au torrent d'Égypte se tenait devant l'Éternel, notre Dieu, pendant 7 jours et 7 autres jours, soit pendant 14 jours. Et le 8e jour, il renvoya le peuple. Ils bénirent le roi et s'en allèrent dans leur tente. Et là, on note, ils se réjouissaient. Le cœur content de tout le bien que l'Éternel avait fait à son serviteur David et à Israël, son peuple. Donc des gens de tous les alentours sont venus pour célébrer la dédicace du temple. Et il y avait des sacrifices de communion pour montrer que nous sommes vraiment en paix avec Dieu, que nous sommes vraiment dans la paix avec les uns les autres et que nous offrons vraiment une action de grâce pour ce que Dieu est en train de faire à travers l'édifice de ce temple. Dire merci à Dieu, donc c'est un joyeux service qu'on rend à Dieu et qui doit se manifester visiblement. Et il se manifeste avec ce chant qui dit « Lancez une joyeuse clameur vers l'Éternel, terre entière. » Donc pas seulement juste Israël, mais terre entière. Une action de grâce dont toute la terre est conviée. Et nous aussi qui sommes désormais en Jésus-Christ, nous offrons aussi des sacrifices, non pas des animaux, mais évidemment. Mais nous offrons nos vies, nous offrons notre prière au Seigneur, qui est un sacrifice de bonne odeur. Comme Paul dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Et ça, c'est vraiment un culte agréable devant le Seigneur. Et pourquoi nous offrons des sacrifices? Tout simplement pour nous rappeler que nous sommes en paix avec Dieu, Pourquoi nous venons au culte? Pourquoi nous faisons ce service pour rappeler que Seigneur, tu es celui qui a fait la paix avec moi et donc je te rends ce joyeux service à travers la reconnaissance vers toi seul. Et c'est toi qui es l'objet de ma louange. Comme dit encore l'apôtre Paul, je lis quelques passages dans Romains 5. Maintenant que nous sommes justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui, Jésus-Christ, que nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. En ceci, Dieu nous prouve son amour. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Plus encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Donc Paul dit que nous nous glorifions, et comment nous nous glorifions aussi, c'est que nous venons dans la présence de Dieu, joyeux, en rendant ce service à Dieu, cette reconnaissance, en nous souvenant que c'est lui qui a fait la paix avec nous, et que nous avons cette paix, et que nous voulons la manifester avec ses chants, avec des prières, avec des actions de grâce qui le glorifient. Et vous remarquez le verset 4 que je relis, entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec la louange. Donc pour les Juifs, ils ne pouvaient pas entrer déjà dans le lieu saint et même dans le lieu très saint. Ils devaient s'arrêter au parvis, les gens du peuple. Mais rien que même d'être dans les parvis du temple, ils étaient dans la joie. Ils étaient dans la joie de pouvoir offrir des sacrifices de communion devant le Seigneur. Mais nous ne sommes pas juste dans les parvis du temple. Et c'est l'auteur aux Hébreux qui nous rappelle. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus, accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant à travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, c'est-à-dire Jésus. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Donc nous ne nous arrêtons pas juste au parvis, mais grâce à Jésus, nous allons jusqu'au lieu saint, au lieu très saint même, où se trouve notre Père, et nous devons lui offrir vraiment cette action de grâce, cette reconnaissance. Et donc si les Juifs étaient déjà joyeux, nous nous voudrions encore plus joyeux de venir dans la présence de Dieu et de vraiment lui offrir une reconnaissance qu'il mérite. Et donc il faut se souvenir de ce premier verset qui dit « Il lance une joyeuse clameur vers l'Éternel, servez l'Éternel avec joie. C'est un honneur que Dieu nous fait de nous accueillir dans sa présence. Et donc nous devons nous souvenir que nous le faisons le cœur joyeux. Et que c'est un service, servez l'Éternel avec joie, c'est un service que Dieu nous appelle à remplir. Je ne sais pas si vraiment vous avez déjà posé cette question, mais moi je me pose souvent cette question, je me dis, mais est-ce que j'ai déjà dit merci à Dieu pour la grâce que j'ai de dire merci à Dieu? C'est une bonne question quand même. Est-ce que nous avons déjà réfléchi à cette question de dire merci Seigneur pour la grâce que j'ai de te dire merci? Quand même, que le Dieu de l'univers, le Tout-Puissant, accepte de nous accueillir dans sa présence pour que nous puissions lui dire merci. C'est un sujet de joie. Et je pense que Dieu veut vraiment que nous méditions sur cette question-là quand nous lisons déjà ces premiers versets du psaume 100. Donc un joyeux service que nous rendons à Dieu. Regardons encore le verset 2 pour voir vraiment qui est au centre vraiment de cette louange. Servez l'Éternel avec joie, venez avec des acclamations en sa présence. On souligne bien le en sa présence. Donc c'est Dieu qui nous accueille, c'est pas nous qui allons premièrement vers le Seigneur, mais c'est Dieu qui ouvre les portes et qui nous dit, venez dans ma présence comme un roi qui accueille vraiment les gens de sa cour dans sa maison. C'est comme lorsque vous emménagez quelque part et que vous avez donc des nouveaux voisins et que ces voisins sont vraiment accueillants et ils vous accueillent avec un repas et ils disent, venez, venez vraiment chez nous. C'est pas vous qui allez premièrement chez eux, mais c'est eux qui vous accueillent chez eux. Et ils le font avec joie, et vous y allez avec joie. Et vous apportez aussi quelque chose pour partager, pour communier avec ces personnes, pour montrer qu'il y a déjà une paix qui commence à s'installer entre vous et les voisins. Donc vraiment, Nous venons dans la présence de Dieu. Dieu est notre hôte. C'est lui qui nous accueille. Et ça, c'est un sujet de joie. C'est déjà un sujet de reconnaissance que Dieu m'accueille. Moi qui suis un pécheur, moi qui ne mérite même pas de m'adresser à ce grand Dieu, et ce Dieu m'accueille. C'est quelque chose de bon et quelque chose de beau. Et un autre sujet de reconnaissance, c'est ce verset 3. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, nous sommes à lui, son peuple, le troupeau de son pâturage. Il y a beaucoup de choses dans ce verset et on peut s'arrêter tout doucement. Déjà, reconnaissez que l'Éternel est Dieu. Il faut se mettre vraiment dans la tête vraiment de celui qui est membre du peuple d'Israël, de dire que l'Éternel est Dieu, c'est un acquis. C'est vraiment quelque chose qui, il le répète tout le temps. Vraiment, souviens-toi Israël que l'Éternel est Dieu, l'Éternel est le seul Éternel. Il n'y a qu'un seul Dieu. Pour celui qui vraiment croit au Dieu d'Israël, il n'y a que ça qui existe de vrai. L'Éternel est le seul Dieu, le seul véritable. Il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a pas d'autre idole, il n'y a que le Seigneur. Donc quand je viens offrir mon sacrifice de reconnaissance, c'est pour celui qui est le Dieu d'Israël, le Dieu vivant, celui qui s'est révélé à Moïse. Quand on se souvient encore de ce psaume 90, qu'on ne peut pas lire le psaume sans le psaume 90, on se rappelle que Dieu s'est révélé à Moïse, Dieu s'est révélé au Père, Dieu s'est révélé à son peuple. L'Éternel est Dieu. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment fondamental pour le juif. Pour le juif, mais aussi pour nous, pour n'importe qui en fait, même pour celui qui ne veut pas croire en Dieu, il doit se souvenir même que l'Éternel reste Dieu. Qu'il le veuille ou pas, l'Éternel reste l'Éternel. Et il n'y en aura pas d'autre. Et ça, c'est aussi un sujet de reconnaissance, de dire, Seigneur, tu es unique, il n'y a personne comme toi. Tu fais des choses que personne ne peut faire. Tu es celui qui n'a pas d'égal, qui n'a pas de rival. Et ça, c'est vraiment un sujet de reconnaissance. Et j'aime beaucoup ce verset 3 qui continue. C'est lui qui nous a fait. Nous sommes à lui, c'est lui qui nous a fait. Comme nous l'avons lu au début de culte, Dieu est notre créateur. Dieu est celui vraiment qui a soufflé la vie dans la terre, dans la vie d'un homme qui s'appelait Adam et qui lui a donné le souffle de vie. Donc Dieu est vraiment le Tout-Puissant. Et Moïse qui disait que l'Éternel est le Créateur, l'Éternel est celui qui a créé l'homme à son image. Il le rappelait aussi dans son psaume 90. Le Juif sait que Dieu est le Créateur, nous savons aussi que Dieu est celui qui nous a fait à son image. Et ça me rappelle. Cette semaine, j'étais avec Daryl qui était là pour le séminaire de master. Il a passé quelques jours avec moi et c'était vendredi soir. On a regardé un documentaire sur la mission sur la Lune, parce que je crois que c'était l'année dernière, ça c'était les 50 ans, quelque chose comme ça. Et on a regardé une émission qui était sur YouTube où il montrait vraiment le déroulement de cette mission de l'alunissage. Donc du discours de Kennedy jusqu'à Apollo 11, donc la mission vraiment avec Neil Armstrong. Et moi, ce qui m'a particulièrement marqué, c'est pas forcément la dernière mission, parce que c'est vrai, c'est quelque chose de grand, l'homme a marché sur la Lune, mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est plutôt l'Apollo 8. Pourquoi? Parce que dans cette mission, les astronautes sont dans l'espace, ils font le tour de la Lune, et pour la première fois, ils voient en fait la Terre de l'extérieur. Parce que nous ne voyons pas, nous sommes sur Terre, nous ne pouvons pas la voir de l'extérieur. Et là, pour la première fois, des gens peuvent voir la Terre se lever, en fait. Et il y a cette fameuse photo, peut-être vous l'avez déjà vue, où on voit la Terre, en fait, dans l'espace, qui est comme ça, élevée. Et j'étais vraiment saisi. Je me suis dit, waouh, mais ce que le Seigneur a fait, c'est grand quand même. De vraiment voir la perfection de la Terre. Et ce qui m'a encore plus marqué, c'est ce que disent les astronautes à ce moment-là. Parce que c'est un moment qui est assez connu. Les astronautes contactent les gens de la NASA et ils commencent à lire les premiers versets de la Genèse. Pendant qu'ils voient en fait la Terre qui se lève et ils prennent la photo, ils sont en train de lire les premiers versets de la Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la Terre, etc., etc. Et on voit vraiment qu'il y a beaucoup d'émotions à ce moment-là. Et même moi, pendant que je regarde ce documentaire, je suis vraiment saisi. Je me dis, mais Seigneur, tu es le Créateur. Tu es vraiment le Créateur. Il faut vraiment qu'on se. Souvent, on prend que c'est pour acquis que nous naissons, que nous vivons, que nous mourons. Mais souvenons-nous que Dieu est un Dieu qui a tout créé. du néant et avec sa grande sagesse. Souvenons-nous de ça quand nous lisons que c'est lui qui nous a fait. Quand nous venons offrir un sacrifice de louange, souvenons-nous de cet acte créateur. Regardons pas seulement la création, regardons même nous-mêmes, le corps humain. Je suis toujours fasciné de voir quand je me regarde dans la glace et je me dis, mais waouh, je ne regarde pas ma beauté, hein, non. Mais je me dis, mais waouh, ce que le Seigneur a fait quand même, de créer vraiment un être humain comme ça. Et on voit que, vous savez, cette semaine, j'ai dû faire aussi un devoir. C'était sur les robots, sur les androïdes et tout ça. Est-ce que l'homme vraiment peut cloner vraiment un être humain? C'est là qu'on voit que l'homme est limité. L'homme n'arrive pas. Il ne peut pas faire ce que Dieu a réussi à faire dans l'histoire. Cet acte créateur, il nous a fait. Donc vraiment, avec le souffle de vie, avec les organes, avec vraiment la bonne disposition, l'homme ne peut que copier, mais ça ne sera jamais ce que Dieu a fait. C'est dans le secret de Dieu. Donc ça, c'est vraiment un sujet de reconnaissance, je pense, de dire que Dieu est notre Dieu qui nous a fait. Donc il est notre créateur. Et regardons la suite. Et nous sommes à lui, son peuple et le troupeau de son pâturage. Comme nous l'avons lu, nous sommes au Seigneur. Soit que nous vivons, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Ça montre que le Seigneur est un rédempteur, quelqu'un qui est un berger. Pour celui qui est juif, il se rappelle que le Seigneur, c'est celui qui a fait alliance sur le mont Sinaï. C'est lui qui a dit que Israël, désormais, tu es mon peuple. Israël, je te choisis parmi toutes les nations et je veux marcher avec toi et je veux que tu marches avec moi. Et désormais, tu es ma propriété. C'est quelque chose de beau de savoir que Israël n'a rien de plus que les autres nations. Il n'a rien de plus que les Égyptiens, que les Cananéens, que les autres peuples. Mais Dieu choisit ce peuple-là pour faire alliance avec et pour qu'il soit son troupeau personnel. Et donc quand le Juif vient au temple pour rendre un sacrifice de reconnaissance, il vient aussi avec cette pensée de dire que Seigneur, tu as voulu que je sois membre du peuple. Je te remercie, un grand merci, parce que tu es celui qui est rédempteur, qui est berger. Et il se souvient aussi de la sortie d'Égypte, de cet événement qui est grandiose. Comment un peuple aussi petit, aussi vraiment faible, a réussi à se sortir du tout-puissant Pharaon. Et c'est parce qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de ce Pharaon et qui a réussi l'impossible aux yeux des hommes, mais le possible aux yeux de Dieu. Nous sommes à lui, son peuple, son troupeau, le troupeau de son pâturage. Nous qui sommes en Christ, nous souvenons vraiment que Dieu a fait alliance avec nous à travers son Fils Jésus-Christ. Et Dieu n'était pas obligé, il pouvait nous laisser, il pouvait même nous juger, il avait totalement le droit. Mais Dieu a choisi, selon sa volonté vraiment, de nous sauver, de vous et moi, de nous sauver. Et de nous amener vraiment dans sa lumière, dans sa présence, pour dire que je vous choisis, vous, pour que vous soyez mon peuple, à travers mon Fils Jésus, et que vous marchiez avec moi. C'est quelque chose de magnifique, quelque chose de beau. Et donc, nous nous souvenons aussi de ces paroles de Jésus qui dit « Je suis le bon berger ». Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Ça, c'est Jean chapitre 10. On se souvient vraiment que le Seigneur Jésus donne sa vie pour ses brebis. Le Seigneur Jésus prend soin de ses brebis. Alors que les hommes ont essayé, les hommes ont échoué. Mais notre Seigneur nous a rachetés. Et il veut que nous soyons en communion avec lui. Et vraiment, il envoie son Fils et il nous délivre du péché. Donc on peut dire merci Seigneur parce que tu as voulu être un rédempteur pour moi. Tu es déjà mon créateur, c'est quelque chose de grand, mais en plus tu as voulu être mon rédempteur. Un grand merci pour cela. Voilà ce qui peut être vraiment une action de grâce digne de ce que le Seigneur attend de nous. Donc le Seigneur créateur, le Seigneur rédempteur, et regardons encore le verset 4, la fin du verset 4. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec la louange, célébrez-le, bénissez son nom. Bénissez son nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un qui vraiment est juif, le nom de l'Éternel, c'est quelque chose de mystérieux, même on ne peut pas le prononcer. Il est tellement, tellement mystérieux, tellement grand. Mais on se souvient quand même que le nom de l'Éternel s'est révélé. Justement, encore une fois, je repars avec ce psaume 90, mais je pense à Moïse. Et Moïse, celui à qui l'Éternel s'est révélé dans le buisson ardent, on se souvient, Exode chapitre 3. Il a dit, je suis celui qui suis, je suis l'Éternel. Donc Dieu n'est pas, Dieu est mystérieux, non. Dieu s'est révélé, il a choisi de se montrer aux hommes à travers son nom. Et ce nom-là, aujourd'hui, a été manifesté en Jésus-Christ. Et il mérite aussi les louanges, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Et donc on peut remercier Dieu non seulement aussi parce qu'il se révèle. Dieu aurait pu rester caché, il aurait pu rester mystérieux et ne pas nous parler. Comme il y a certains philosophes qui disent que Dieu, oui, il a créé le monde et ensuite il a laissé le monde gérer tout seul. Non, Dieu a choisi de continuer à parler à ce monde, à se montrer au monde et à se révéler à travers le nom de Jésus-Christ. Et ça, c'est un sujet aussi de reconnaissance. C'est ça vraiment un sujet d'action de grâce. Et donc nous voyons vraiment comment Dieu, vous voyez dans ce psaume, comment Dieu est au centre, dès le début, et on continue, Dieu est toujours élevé, exalté, il est au centre. Et je peux vous donner deux exemples de quelqu'un qui a vraiment cette prière théocentrée, si je peux dire, centrée sur Dieu, c'est notre Seigneur Jésus. Notre Seigneur Jésus, il priait ainsi, il dit par exemple, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tel a été ton bienveillant dessein. Vous voyez comment Jésus prie, je te loue, Père. Donc déjà, l'objectif est placé sur Dieu. Seigneur du ciel et de la terre, vraiment, à Dieu soit la gloire, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Donc, il remercie Dieu pour sa sagesse, pour sa bienveillance, certes, mais pour sa sagesse, pour sa souveraineté, pour qui il est. Dieu est vraiment au centre des prières, même de notre Seigneur Jésus-Christ, quand il était sur terre et qu'il était humain. Et la deuxième prière que nous connaissons très bien, le Notre Père, c'est pas Notre Père qui est aux cieux, donne-moi le pain quotidien. C'est pas non plus Notre Père qui est aux cieux, délivre-moi du malin. C'est Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Matthieu 6. C'est vraiment une prière qui exalte Dieu pour qui il est. Il est notre Père. Il est au ciel, donc il est tellement au-dessus de nous. Et donc son nom, que j'ai parlé tout à l'heure, son nom doit être traité comme saint, doit être considéré comme saint. Que ton nom soit sanctifié. Donc vraiment la prière de reconnaissance exalte vraiment le Seigneur, le met au centre de toute chose, et surtout de notre reconnaissance. C'est pour ça que c'est une question qu'on peut se poser, mais quand moi je rends des actions de grâce à Dieu, est-ce que je commence par Dieu ou est-ce que je commence par moi? Est-ce que quand je viens vraiment offrir un sacrifice de reconnaissance, par qui je suis en train de commencer en fait? Est-ce que je dis merci Dieu pour qui tu es? Est-ce que je dis merci Dieu pour ce que tu fais pour moi? Et quand on lit ce psaume, on a l'impression vraiment surtout qu'on doit remercier Dieu pour qui il est d'abord et pour vraiment sa personne, son œuvre. Et ça rejoint donc ce dernier point, donc que nous remercions Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Relisons le verset 5. Car l'Éternel est bon, sa bienveillance dure toujours, sa fidélité de génération en génération. L'Éternel est bon. Des fois, on lit ce passage, on dit, bah, c'est oui, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Mais en fait, quand on réfléchit bien, dire que l'Éternel est bon, ça veut dire que nous ne sommes pas bons, en fait. Parce que s'il n'y a que l'Éternel qui est bon, nous ne sommes pas bons. Comme Jésus l'a dit, il y avait un homme qui était venu le voir, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus dit, mais pourquoi tu dis bon? Il n'y a que Dieu qui est bon. Il n'y a que Dieu qui est bon. Et là encore, ça rappelle cette prière de Moïse qui dit, l'Éternel a été un refuge pour nous, mais nous n'avons pas obéi, nous avons désobéi, nous avons suivi les voies de nos pères, nous n'avons pas marché droit selon l'Éternel. Mais l'Éternel a continué à être bon envers son peuple. Malgré la désobéissance dès la sortie d'Égypte, désobéissance déjà avec le veau d'or, et même dans le désert, désobéissance sur désobéissance, et ça a continué pendant des années, la désobéissance, même quand le Fils de Dieu s'est incarné, encore la désobéissance. Mais l'Éternel continue d'être bon. Il continue de manifester sa bonté envers les pécheurs. Tous les hommes ont besoin de la grâce de Dieu. Et c'est pour ça qu'on doit se rappeler que Dieu est bon. S'il n'y avait pas que Dieu qui était bon, nous n'aurions aucune espérance. Mais heureusement que le Seigneur est bon et que lui seul est bon. et il peut manifester sa grâce sur chacun de nous. Non seulement il est bon, mais relisons le verset 5, sa bienveillance, ou alors sa faveur, dure toujours. Elle ne dure pas un temps, elle ne dure pas un moment, mais elle dure toujours. Et ça aussi, c'est un sujet d'action de grâce, de dire que Seigneur, tu es bienveillant, même si nous sommes des pécheurs, même si vraiment nous refusions même, avant même de venir à Christ, nous refusions d'aller vers toi. Toi, tu as continué à manifester ta bienveillance, tu as continué à manifester ta faveur envers nous. Et tu nous as fait grâce d'être agréable devant toi. Alors pour le juif, c'était avec les sacrifices d'animaux. Il fallait sacrifier des animaux pour avoir vraiment être favorable devant Dieu, le grand prêtre qui venait pour faire ce sacrifice une fois par an, pour vraiment que les péchés soient pardonnés. Mais tout ça, nous savons que ça pointait vers quelque chose de plus grand, vers ce que Christ a fait pour nous. Quand il est vraiment lui-même venu s'offrir en sacrifice pour que nous soyons en paix avec Dieu, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans Romains. Ce que Christ a fait, en réalité, c'était pour nous introduire vraiment dans la présence de Dieu, pour que nous soyons en mesure d'être en bonne position devant Dieu. Pour que Dieu nous soit vraiment favorable, il a fallu que Dieu agisse, car nous étions incapables d'agir devant Dieu. Et c'est pour ça qu'on peut le remercier pour sa promesse, promesse qui a duré des années. Sa bienveillance dure toujours. Depuis la chute jusqu'à la venue de Jésus-Christ, Dieu a manifesté sa promesse, il a manifesté sa bienveillance, elle était favorable. Donc on peut le remercier pour cela. On peut prier comme Paul, qui priait ainsi. Il disait ça à Timothée, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme emporté, mais il m'a été fait miséricorde. Parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine, digne de confiance, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs, dont moi je suis le premier. Mais il m'a été fait miséricorde, afin qu'en moi le premier, Jésus-Christ montre toute sa patience pour servir d'exemple à ceux qui croiront en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, honneur, gloire au siècle des siècles. Vous voyez comment Paul vraiment se souvient de ce que Dieu a fait pour lui, mais tout de suite il remet le focus, si je peux me permettre le terme, sur Dieu. Il dit, au roi des siècles, seul Dieu, honneur et gloire au siècle des siècles, il m'a été fait miséricorde. C'est pas je suis devenu favorable devant Dieu, mais il m'a été fait miséricorde. Il a été bienveillant envers moi. Dieu a été bienveillant envers moi. Je repense à ma vie, je vois que Dieu a vraiment fait de grandes choses et il m'a sauvé de mon péché. Célébrez l'Éternel car sa bienveillance dure toujours et il continue de sauver aujourd'hui. Et sa fidélité dure de génération en génération. Moïse disait dans le psaume 90, tu as été bon envers nous. De génération en génération. Et là, ce psaume qui conclut en fait cette partie, l'Éternel est bon, il est fidèle, chaque génération et chaque génération. Ça répète ce qui vient d'être dit avant en fait. Si on montre que Dieu est fidèle, ça veut dire que nous ne sommes pas fidèles. Moi le premier, nous ne sommes pas fidèles devant Dieu. Et nous avons besoin de nous rappeler que seul Dieu est fidèle. Lui seul. Les années passent. Et il ne se détourne pas, il continue d'aimer ses enfants, il continue d'aimer son peuple, même si son peuple pêche, même si son peuple se détourne, il continue de l'aimer, il continue de vraiment manifester sa bienveillance sur lui. Et cette infidélité d'Israël qui a duré pendant des années, même quand Jésus est venu, cette infidélité que nous avions avant de connaître Christ, Dieu s'est manifesté, il a envoyé son Fils pour nous racheter. Il a montré encore qu'il est fidèle et il continue de sauver. Peut-être que vous aviez prié longtemps pour un frère, une sœur, un voisin, un mari ou une épouse ou vraiment un parent. Pendant des années, vous avez prié, vous dites, mais Seigneur, touche son cœur pour qu'il puisse se repentir, se convertir. Et ce jour-là est arrivé. Mais pourquoi? Parce que l'Éternel est fidèle. Quand il promet le salut, il envoie aussi le salut. Et voici que cette personne est sauvée. C'est un sujet de reconnaissance. Merci Seigneur. Tu es fidèle de génération en génération. Tu sauves des gens du monde entier. Tu sauves des gens qui sont au loin, très loin, et tu continues de les sauver. Merci Seigneur pour cela. Voilà un sujet de reconnaissance. Et on espère qu'il va continuer encore en 2020 à sauver des proches, à sauver des amis, des personnes à qui nous tenons, pour qu'on puisse continuer à faire cette prière que merci Seigneur, tu as été fidèle et tu es bon et tu es bienveillant à chaque instant. Voilà ce psaume 100 alors. Qu'est-ce qu'une bonne action de grâce selon Dieu? Qu'est-ce qu'une action de grâce qui glorifie le nom de Dieu? C'est vraiment une action de grâce où on se rappelle que c'est un service qu'on rend à Dieu. Service joyeux. Un service où on vient avec vraiment le cœur qui bat de se dire, mais quel honneur d'être dans la présence de Dieu. Quel honneur d'être accueilli par le roi des rois. Lui qui n'a même pas besoin des hommes, il n'a même pas besoin de notre adoration. Mais pourtant, il désire notre louange. Comme Jésus disait à la femme samaritaine, Dieu est à la recherche de vrais adorateurs, de ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc de se souvenir que c'est un joyeux service, c'est déjà un sujet de reconnaissance. Et on se rappelle que Dieu doit être au centre de notre louange. Quand on dit merci, c'est vraiment, on doit se souvenir que c'est d'abord Dieu. Merci Dieu parce que tu nous as créés. Merci Dieu parce que tu es celui qui est rédempteur, qui est notre berger, qui nous guide vraiment vers les eaux paisibles, qui restaure notre âme, qui nous conduit sur les sentiers de la justice à cause de ton nom. Non pas à cause de nous, mais à cause de ton nom. C'est toi qui nous reçois dans ta présence, c'est toi qui te révèles. T'aurais pu te cacher, Seigneur, mais tu t'es révélé aux hommes. Gloire à toi. Vraiment, c'est une louange. On se souvient aussi que Dieu est celui qui nous a sauvés, qui est vraiment notre Seigneur, qui est notre Rédempteur. On le loue pour ce qu'il a fait, pour sa miséricorde qu'il a déversée sur nous. Tout ça, non pas pour nous, d'un côté, oui, pour nous, mais surtout pour lui, pour sa gloire. Et donc peut-être qu'on vient le dimanche matin et qu'on vient vraiment en se disant, mais comment, mais qu'est-ce que je vais dire au Seigneur? Remédions ce psaume 100, rappelons-nous de pourquoi nous venons rendre des actions de grâce et à qui nous rendons des actions de grâce et comment nous devons rendre une action de grâce qui est digne à Dieu. Alors que Dieu nous aide vraiment chaque jour, pas seulement dimanche matin, mais chaque jour à prier comme ce psaume 100, à vraiment voir que nous devons venir dans la présence de Dieu, joyeux, contents, heureux de ce que nous sommes accueillis par le Seigneur, heureux de qui il est, de ce qu'il fait pour nous, et de sa présence, et vraiment de sa grâce qui coule dans nos vies, et de sa bienveillance qui dure de génération en génération. Dieu est fidèle, et nous croyons qu'il va continuer à l'être cette année et les années à venir jusqu'au retour de son Fils. Amen.